C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Eugène Delacroix, 1798-1836, français. Œuvre La liberté guidant le peuple, huile sur toile, 2,60 m sur 3,25 m, 1830, conservé au musée du Louvre. Personnage La liberté. Adaptations nombreuses. On peut dire que, en particulier sous la Ve République, la liberté de Delacroix est devenue un symbole républicain. Le tableau a illustré les billets de 100 francs entre 1978 et 1995 et sa tête a servi pour une série de timbres d'usage courant type Marianne de 1982 à 1990. C'est une femme au sein nu. Elle ne les a pas nus par provocation sexuelle ni par je ne sais quel proto-nudisme. Elle a les seins nus par idéalisme. C'est un chef. Elle guide le peuple, un fusil à baïonnette dans la main droite, un drapeau bleu-blanc-rouge dans la main gauche. Montée sur une barricade, elle se tourne en arrière, le regard concentré et protecteur d'une maîtresse d'école, surveillant les insurgés qui avancent derrière elle. C'est une furie froide, mais néanmoins assez possédée par l'idée de la révolution pour ne pas penser un instant à couvrir ses seins dénudés sous l'effet de sa hâte. La révolution vaut bien une impudeur. Nous sommes il y a bientôt 200 ans, en juillet comme aujourd'hui, en 1830. Le vieil imbécile pincé nommé Charles X est chassé du pouvoir en 3 jours. On ne le voit pas sur le tableau, mais symboliquement, c'est lui qui fait face, avec sa silhouette maigre et blafarde comme de la fumée, à la liberté au sein nu. Les allégories, d'habitude, sont paisibles, assurées et figées. Assises sur des trônes, comme les statues de ville de la place de la Concorde, pour une fois, un artiste faisait d'une figure allégorique, c'est-à-dire un corps dont le corps ne compte pas, un corps qui sert de signe, un corps idéogrammatique en quelque sorte, il en faisait un personnage. Les autres allégories de la liberté étaient habillées d'une manière plus moderne pour notre époque. Je pense à la supposée intelligence artificielle que nous apporteraient les ordinateurs. Ils me paraissent en tout cas excellents pour diffuser de la bêtise artificielle. En mars de cette année, Facebook a censuré le tableau de Delacroix à cause des seins nus de la liberté. On le savait bien que Facebook n'était pas la liberté. Mark Zuckerberg vient d'ailleurs d'être félicité au Parlement européen par Nigel Farage pour avoir permis le Brexit et l'élection de Trump. Et nous pouvons donc nous attendre à ce qu'on mette une burqa à la femme nue du déjeuner sur l'herbe sur Facebook. L'amusant est que Delacroix, qui peignait cette peinture apparemment tourmentée, était un flegmatique. Et c'est peut-être pour ça que certains ont imaginé qu'il était le fils illégitime de Talleyrand. Le furieux, le passionné, celui qu'on aurait dit romantique, c'était le peintre le plus classique et le plus céramique qu'on puisse imaginer, Ingres. Les indications biographiques que je donne au début de chacun de ces personnages en personne sont des indices, pas des automatismes. Pour parler de la liberté guidant le peuple, et à l'occasion de l'exposition Delacroix qui se tient au Louvre, je reçois Dominique de Fonréau, directrice du musée Delacroix à Paris, et éditrice des textes de jeunesse du peintre « Les dangers de la cour » chez Flammarion. Dominique de Fonréau, j'ai décrit la liberté guidant le peuple par ses éléments les plus frappants, ses seins et son regard, mais dites-moi un peu plus exactement à quoi elle ressemble et comment le tableau est organisé.
À quoi elle ressemble? Elle ressemble en fait à une femme de grande taille, de grande stature. Elle est plus grande que les autres personnages qui l'entourent. Ça, je crois que c'est quelque chose qui surprend beaucoup. Et puis, elle a quelque chose de très frappant, c'est que elle a à la fois un profil de médaille qu'elle tourne un tout petit peu, pour regarder ce qui se passe derrière, c'est-à-dire les insurgés dont vous parliez, Charles, qui sont derrière. Donc, elle a ce profil de médaille et en même temps, elle a une certaine puissance corporelle. C'est une femme avec, elle est haute, de taille, de stature, mais elle a aussi une puissance corporelle tout à fait étonnante. En fait, tout ça, c'est parce que le modèle de Delacroix, de cette allégorie, ce sont les statues grecques, en partie, qu'il a vues d'ailleurs par le moulage ou par l'estampe. Il n'est jamais allé en Grèce, et on le sait, la victoire de Samothrace, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, mais la victoire de Samothrace, en fait, arrive au Louvre après sa mort, donc il ne l'a pas connue.
Et donc, pardon de vous interrompre, il n'a pas eu de modèle pour la liberté?
Il n'a pas eu forcément de modèle direct. C'est vraiment, l'idée, c'est plutôt ce travail par rapport à des modèles anciens, notamment moulages et estampes qu'il connaissait, donc des statues antiques. Elle est assez stupéfiante parce qu'elle a toutes les caractéristiques d'une allégorie avec sa puissance, sa majesté, ce profil de médaille. Et puis, en même temps, elle tient, c'est presque un peu absurde, et vous l'avez souligné, d'un côté le drapeau, bleu, blanc, rouge, donc, qui va être ensuite le drapeau repris par, par Louis-Philippe. Hein, qui,
donc, on va en parler, oui.
Voilà. Et puis de l'autre côté, un fusil, et un fusil de l'époque. Donc, c'est assez étonnant d'avoir cette femme qui est à la fois une femme qui s'inscrit dans un passé illustre, glorieux d'allégorie, et puis en même temps qui est une femme de 1830. Voilà. Alors, c'est une femme de 1830, elle est à moitié dénudée, c'est étonnant. C'est d'autant plus étonnant que, effectivement, elle est dénudée parce qu'elle rappelle cet enjeu de l'allégorie. Cette allégorie, c'est celle de l'iconographie de la victoire. Hein. Cette liberté est une victoire. Mais d'une certaine manière, en étant à demi-nue, elle peut être aussi, éventuellement, une vérité, puisque l'allégorie de la vérité en peinture, c'est une femme nue ou une femme dénudée. Donc, sans doute, Delacroix a peut-être pas détesté jouer sur cette ambiguïté-là, qui n'en était peut-être pas une, d'ailleurs. Mais, à part ça, la manière dont elle est vêtue, avec son grand vêtement, son espèce de robe qui l'habille qu'à moitié, c'est une robe qui est drapée, assez habilement drapée, mais, et ça a d'ailleurs choqué...
De quelle couleur ?
Elle est dans un jaune un peu sale, enfin, donc... Et justement, cette saleté apparente a un peu choqué la critique de l'époque, parce que on s'est dit, finalement, elle n'est pas d'un blanc pur, ou elle n'est pas de quelque chose qui apparaîtrait d'une couleur franche, elle est une couleur un peu à demi-teinte.
Mais ça fait partie, pardon d'un terme, ça fait partie de... Vous avez employé le mot ambiguïté, je crois que c'est un tableau qui est tout en ambiguïté, et c'est probablement une ambiguïté qu'il a voulu
absolument,
aussi.
Absolument, j'en suis certaine, c'est probablement une ambiguïté. De toute façon, Delacroix lui-même est quand même quelqu'un
on
d'assez
va en
ambigu,
parler aussi.
Aussi, si vous pouvez me permettre de dire ainsi. Alors, cette ambiguïté de la saleté, c'est aussi parce que l'ensemble de la scène, et comme vous le disiez à l'instant, est assez mouvementé. C'est pas une scène très calme. On figure des barricades, on voit à l'arrière du tableau la fumée, hein, on distingue Notre-Dame et les quais de Paris à l'arrière-plan du tableau. Donc peut-être aussi ces saletés, c'est peut-être celle des combats. C'est-à-dire que finalement, il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que elle pourrait être une victoire grecque qui surgit, et c'est ce qu'elle est. Et puis en même temps, par le fusil, par le vêtement un peu sale, par ce rapport entre un corps un peu plus, peut-être moins patricien que ne l'est le visage, si on peut le dire ainsi, elle a peut-être pris part au combat.
Oui, et puis ce que nous n'avons pas dit, c'est qu'elle est, elle, en quelque sorte, elle émerge d'une espèce de tombereau de combattants morts, une espèce de radeau de la Méduse de combattants morts.
Oui, elle émerge et elle va franchir ses corps. Voilà, elle a des corps juste devant elle, c'est très saisissant d'ailleurs, parce que, et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que Delacroix a bien réfléchi à la manière dont ses corps étaient disposés. Bien sûr, il se souvient du radeau de la Méduse, il se souvient aussi, par exemple, de la bataille d'Elo, hein, de Gros, hein, et c'est vrai qu'il a fait très attention et finalement il a choisi d'en avoir pas tant que ça, mais enchevêtré de telle manière que c'est très très impressionnant.
Le titre définitif qu'il va donner, c'est, et c'est lui qui lui a donné ce Ferrin, c'est le 28 juillet, point, la liberté guidant le peuple. C'est-à-dire encore, non pas une ambiguïté ni une équivoque, mais un équilibre, parce que c'est le 28 juillet, c'est un moment précis, et la liberté, c'est l'éternité. Donc, c'est à la fois des choses vues et à la fois une allégorie.
Absolument, et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'après, quand il le désigne dans sa correspondance ou dans son journal, il en parle comme son tableau des barricades. Il dit mon tableau des barricades. Delacroix lui-même n'a pas pris part aux barricades, hein. Soyons clairs, c'était pas son tempérament, il a vu, vous le disiez à l'instant, tout ça est tombé très vite, hein, 3 jours, hein, c'est rien du tout à la fin du mois de juillet 1830, et c'est une révolution urbaine, hein, qui s'est passée très vite, une alliance d'ailleurs, comme ça se passe souvent, entre notamment un certain nombre d'ouvriers, les étudiants et une partie de la bourgeoisie, donc c'est allé très vite, et c'est parti, et je trouve que c'est bien de le dire sur France Culture, c'est parti de loi sur la presse que Charles X voulait promulguer et qui, bien sûr, déplaisait fortement à beaucoup et notamment aux artistes en particulier.
Une autre ambiguïté équivoque, ou je ne sais pas le mot que nous devrions choisir, est que la liberté de la croix porte un bonnet phrygien, lequel bonnet phrygien avait été adopté comme symbole républicain sous la Révolution, et que nous l'avons déjà dit 2 fois, elle tient à la main ce drapeau bleu-blanc-rouge, mais il ne faut pas que rétrospectivement nous pensions que le drapeau bleu-blanc-rouge était la liberté aussi. En 1830, c'était un symbole bonapartiste.
Oui, ce qui est Delacroix. Il ne faut pas se tromper, Delacroix était quelqu'un qui n'était pas un monarchiste, ça c'est sûr, du côté des Bourbons, mais la famille est bonapartiste. Hein, et
oui.
Il est raisonnablement libéral-conservateur. Il est plutôt assez conservateur quand même, malgré tout. Hein, voilà.
Son père, qui avait voté la mort de Louis XVI, a été préfet d'Empire, et un de ses frères a été général et baron d'Empire.
Absolument.
Donc il est quand même très
ancré là. Son plus jeune frère est mort à Friedland. Donc il est très ancré dans l'Empire.
Alors, à propos de drapeaux tricolores, est-ce qu'il y avait eu, on pense évidemment à un autre tableau d'un autre de peintre que vous aviez cité tout à l'heure, qui est gros, qui est le Bonaparte au pont d'Arcole. Est-ce que vous pensez qu'il y a une citation? Et est-ce que, deuxième sous-question, est-ce qu'il y avait eu beaucoup de représentations à ce moment-là de tableaux avec le drapeau tricolore?
Alors, là, pour répondre à la première question, j'aurais tendance à penser oui. Parce que Delacroix nourrit une très vive admiration pour Gros, qui malheureusement se suicide quelques années après. Hein, il se suicide au milieu des années 1830. Et Gros était un élève de David. Mais Gros avait beaucoup d'intérêt et pour Delacroix et pour Géricault, qui lui rendait bien. Et c'est vrai que j'évoquais tout à l'heure les morts au premier plan. Ce sont les morts de la bataille d'Eylau. Je peux pas imaginer que d'une manière ou d'une autre, il ait passé en tête. Alors après, à quel titre, c'est difficile de le savoir. D'autres tableaux avec le drapeau, c'est vrai que il y a eu très vite, autour de 1830, un certain nombre d'autres tableaux qui sont pas restés, qui sont pas forcément restés dans les idées, mais
je voulais dire avant.
Avant. Il y a des représentations. Alors là, pour le coup, malheureusement,
Sous la Révolution.
Le titre. Il y a des représentations qui sont des représentations gravées, mais aussi peintes. Mais malheureusement, je sais pas de grands peintres, donc je n'ai pas forcément la référence exacte. Mais notamment avec les fêtes de la Fédération et Lafayette. Donc il y a des éléments comme ça.
Vous disiez que Delacroix n'a pas participé aux journées, évidemment, mais il était avec Alexandre Dumas qui l'a raconté plus tard. Et Dumas raconte de manière assez amusante d'ailleurs qu'au tout début, Delacroix était terrorisé en disant la canaille va gagner, mais que ce qui l'a rendu enthousiaste, c'est le fait que pendant quelques heures, le drapeau bleu-blanc-rouge a été hissé sur Notre-Dame, et c'était précisément le 28 juillet.
Et c'était précisément le 28 juillet, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit Notre-Dame à l'arrière du tableau.
Une chose assez frappante, je trouve, c'est que quand on lit les témoignages, Stendhal, mais beaucoup d'autres, de ces journées-là, de ces gens qui étaient là, c'est le très beau temps qu'il faisait pendant les Trois Glorieuses. Or, le tableau de Delacroix n'est pas un tableau de beau temps.
Non, pas du tout. C'est pas un tableau de beau temps. Alors, en même temps, c'est un peu difficile parce que...
Oui, il y a la fumée.
On a la fumée et il a beaucoup exagéré cette fumée. Je pense qu'à nouveau, il se souvient de Gros, hein, notamment de la bataille d'Eylau. Il se souvient aussi du radeau de la Méduse. Il se souvient aussi, peut-être, de certaines de ses propres œuvres et notamment... on retrouve une partie comme ça de côté dramatique qui est Dante et Virgile aux enfers de 1822. Donc je pense que il y a une dimension théâtrale, c'est ça qui rend les choses complexes dans ce tableau, c'est que il y a une dimension allégorique et une dimension naturaliste, on l'a dit, mais il y a aussi une dimension théâtrale,
d'artifice. Presque,
De toute façon, l'ambition de Delacroix est jamais celle d'un naturalisme avéré. C'est pas du tout son histoire à lui. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui le rend très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours dans un rapport à la remémoration et toujours dans un rapport à quelque chose qu'il aura réinterprété par rapport à la manière dont lui-même s'en souvient. Donc, ce qu'il en demeure là, c'est finalement sans doute... comment dirais-je, à la fois la part d'exaltation d'autant plus forte qu'il n'y a pas pris part et que d'une certaine manière il se console peut-être de quelque chose auquel il n'a pas pris part, enfin voilà. Et puis aussi l'idée du combat tel qu'il en a la force, avec le fait qu'il appartient, comme Musset, comme Hugo, comme Dumas, à cette génération qui a l'impression d'être née trop tard dans un monde déjà trop vieux. Donc il y a aussi l'idée du combat et de la force du combat.
Cette liberté guide le peuple et le peuple, dans sa partie documentaire, le tableau nous le dit, il nous dit exactement ce qu'il pense que c'est en tout cas. C'est un paysan, un élève de l'école polytechnique avec son béret et un ouvrier. Donc d'avance, Delacroix nous dit en quelque sorte que ce n'est pas... Une révolution bourgeoise comme Louis-Philippe qui a pris le pouvoir a tenté de nous en persuader après.
Oui, mais en même temps, on a quand même l'ouvrier typographe avec son chapeau. Enfin, on a quelqu'un. Voilà, on a quelqu'un qui est entre deux dans les intermédiaires. Mais c'est vrai que c'est un peuple. Cela étant, Delacroix très vite et d'ailleurs connaissait Louis-Philippe. Enfin, connaissait le duc d'Orléans. Il connaissait pas Louis-Philippe à ce moment-là, mais il connaissait le duc d'Orléans. Et Delacroix espérait quand même beaucoup de Louis-Philippe, parce que les Orléans sont toujours des protecteurs des arts.
Mais il faut bien spécifier que le tableau dont nous parlons n'est pas un tableau de commande.
C'est un tableau de commande, mais qui est acheté par l'État.
Pour finir la première partie de cette émission, il y a une chose qui me paraît intéressante, c'est que évidemment le personnage central, c'est la liberté, c'est elle qui donne son nom au tableau, c'est elle que nous voyons centralement, mais ce qui me paraît intéressant, et j'espère que je ne me trompe pas, c'est les regards des personnages et que tous les personnages qui sont dans ce tableau, quand on analyse la direction de leur regard, ne se portent pas sur elle, ou beaucoup moins sur elle, que sur un petit garçon.
Oui, absolument, sur un petit garçon qui est juste à côté d'elle, qui a 12, 13 ans, enfin quelque chose comme ça, et un petit garçon qui a eu sans doute une fortune littéraire importante, puisqu'il est proche du Gavroche de Victor Hugo.
Est-ce qu'on sait positivement si Hugo a... Parce qu'on lit beaucoup que Hugo... Mais moi, j'ai cherché dans les choses...
Non, il ne dit pas. Non, il n'en parle pas. Maintenant, c'est probable, les deux hommes se connaissaient, hein, Hugo Delacroix, ils sont exactement de la même génération, ils appartiennent exactement au même milieu, vraiment exactement au même milieu, c'est-à-dire ces gens qui, dont les pères ont progressé grâce à la Révolution française et à l'Empire.
Hugo était général.
Voilà,
aussi.
Donc c'est vraiment des ils appartiennent vraiment au même milieu. Ils se fréquentent et puis après plus, mais parce que Delacroix après devient pas de
plus de réactionnaire.
Oui, et puis se retranche de plus en plus quand même.
Est-ce que vous diriez, pour continuer sur cette idée de l'équivoque ou non de Delacroix, que il a eu une intention, en faisant se diriger les regards vers ce gamin, de la détourner précisément un peu de la liberté?
Je suis pas sûre, parce que le mouvement est tel de la liberté, c'est tellement puissant. Mais je pense aussi que Delacroix est un peintre et il a un sens très aigu de la composition. La composition d'ailleurs de la liberté est une composition classique.
Hein. Oui, triangulaire.
Il faut quand même avoir à l'esprit que le tableau, dans le registre des grands tableaux, succède au Sardanapale avec cette composition très étrange en ellipse qui lui a valu tellement de commentaires difficiles, tandis que là on a une composition pyramidale classique, vraiment, alors là, qui respecte tous les usages. L'enfant est là aussi pour faire le contrepoint aussi, pour habiller.
Parce que si tout le monde avait regardé la liberté, ils auraient eu la tête levée. Ça,
mais c'est ça, parce qu'elle est quand même elle est très haute.
Il faut
avoir à l'esprit. À chaque fois, je m'amuse d'essayer de calculer, mais elle serait très très grande.
Oui, elle fait 2m30 à mon avis. Nous allons maintenant entendre Bandiera Rossa, une des dernières chansons révolutionnaires de notre époque. C'est celle des communistes italiens du XXe siècle. Avanti popolo alla vittoria, bandiera rossa triomferà. Peuple en avant vers la victoire, le drapeau rouge triomphera. Elle est interprétée par le groupe Motivé. C'était en 1997. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa. Dominique de Fonréau, je voudrais que dans cette deuxième partie de Personnage en personne, nous racontions non plus l'histoire du personnage, mais l'histoire du tableau et ce qui s'est passé, parce que c'est très intéressant. Donc, il est acheté en 1830 et je crois qu'il est envoyé très vite dans les réserves.
En fait, il est donc acheté, il est présenté au salon de 1831 et il est acheté donc par l'État, et assez vite il est envoyé dans les réserves, parce que assez vite le gouvernement de la monarchie de Juillet, donc celui de Louis-Philippe, n'est peut-être pas aussi libéral qu'on avait espéré, et la garde nationale tire à plusieurs reprises donc sur la foule. Et puis il y a aussi cet horrible massacre de la rue Transnonain que Daumier avait représenté, absolument épouvantable. Donc c'est pas très politiquement correct pour l'époque, c'est pas une expression de l'époque, mais c'est difficile de laisser un tableau montrant des barricades présenté au musée du Luxembourg. Et le tableau est mis en réserve, et façon tout à fait étonnante, il est même rendu à l'artiste à un moment donné.
En 1839.
Donc ce qui est quand même ce qui est assez rare pour un tableau acheté par l'État. Et là, après, il n'a eu de cesse qu'il soit montré. Qu'il soit montré non pas pour des idées politiques, me semble-t-il, mais vraiment qu'il soit montré parce qu'il était fier de ce tableau et qu'il voulait le présenter. Donc, en 1848, on le sait, nouvelle révolution, alors que Delacroix craint encore plus que la révolution de 1830, il écrit une lettre à son ami Charles Soulier, qui est absolument effrayante, où vraiment il a très peur, il envoie une lettre presque révoltée à George Sand, qui veut s'engager, en lui disant, mais vraiment, vous êtes encore plus folle que jamais, mon ami, enfin, c'est vraiment terrible, donc il veut vraiment pas aller plus loin, mais quand même, il se dit, et ça qui est intéressant chez Delacroix, c'est que faut jamais oublier qu'il est un peintre et qu'il veut que ses œuvres soient montrées. Hein. Il ne faut pas non plus, de ce point de vue-là, il faut prendre en considération.
Pardon, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas... Il aurait pu la vendre ?
Mais non, elle était propriété de l'État.
Non, mais quand on l'a lui a rendue.
Ah oui, mais elle était restée propriété de l'État.
Ah, elle était restée propriété de l'État.
Elle a pas été remboursée, il n'a pas remboursé d'argent.
Mais dans la mesure où on l'avait rendue,
oui,
on
ne
pouvait pas considérer qu'elle était...
Oui, mais en fait, elle était restée propriété de l'État.
C'est intéressant.
Voilà. Et donc
en 48.
En 48, il se dit, voilà, un bon moment pour présenter quelque chose. Et puis finalement, ça ne se fait pas parce que, on le sait, la Seconde République ne dure pas très longtemps. Et donc arrive au pouvoir d'abord Louis-Napoléon Bonaparte comme président, puis comme prince-président.
Pardon, mais est-ce qu'elle a été accrochée en 48?
Je crois pas qu'elle ait été accrochée en 48, ou j'en suis. En tout cas, en 48, celle-là, elle est assez brièvement.
Il me semble qu'elle a été brièvement au Luxembourg.
Parce qu'elle est vraiment, réaccrochée en 1855 pour l'exposition universelle. Donc, il est possible qu'elle le soit en 48, mais
très
relativement brièvement. Oui. Elle l'est pas, en tous les cas, reprise ensuite après. Et donc, le grand moment où elle ressort, et ça, c'est une des grandes fiertés de la Croix, c'est pour son exposition personnelle en 1855. Et ça, il en est très heureux, puisqu'elle est un des grands éléments de présence, de sa présence donc dans le palais des Beaux-Arts, avenue Montaigne, donc pendant l'exposition universelle de 1855.
Donc c'était une exposition spécifique pour Delacroix,
oui.
Organisée par qui ?
Organisée par l'État. En fait, Louis-Napoléon Bonaparte avait été extrêmement mari de l'organisation de l'exposition de 1851 à Londres. Parce qu'il aurait voulu que ce soit la France qui organise cette première exposition. Vous savez que c'est des éléments de compétition. Et donc, il se promet très vite d'organiser une exposition universale. Elle aurait dû avoir lieu en 54, et puis pour différentes raisons, elle n'a pas lieu. Et Napoléon III décide que les Beaux-Arts soient au cœur de cette exposition, ce qui n'avait pas été le cas à Londres, où c'était les produits de l'industrie, en fait.
Hein,
c'était tout à fait différent. Et donc, il construit un palais des Beaux-Arts avenue Montaigne, très important, et il décide d'honorer notamment deux grands artistes, parmi d'autres, hein, d'autres le sont aussi, mais notamment deux grands, qui sont Ingres et Delacroix.
Les deux rivaux.
Avec une sombre histoire, parce qu'il semble que Ingres ait profité d'une relative grippe de Delacroix pour piquer quelques mètres carrés.
Non.
Voilà. Bon, voilà. Et donc, pour Delacroix, c'est quand même un triomphe. C'est une véritable reconnaissance, cette installation.
Il n'était pas si glorieux avant ?
Il l'était, mais il l'était toujours entaché du sardanapale, d'une certaine manière.
À ce point-là,
l'Académie ne le reçoit en son sein.
L'Académie des Beaux-Arts.
L'Académie des Beaux-Arts ne le reçoit en son sein qu'en 1857, c'est-à-dire 30 ans après le sardanapale, vous vous rendez compte ?
Incroyable.
Après 6 échecs. 6 échecs. Donc, d'ailleurs, le sardanapale n'est pas montré en 55.
Donc,
il était propriété d'un collectionneur britannique. Et donc la liberté ressort à ce moment-là. Donc là, elle est vraiment très présente. Mais ensuite, elle est présentée une autre fois au début des années 1860 du vivant de Delacroix. Mais c'est surtout avec la Troisième République qu'elle entre au Louvre avec les autres tableaux de Delacroix au tout début des années 1870 et qu'elle devient l'icône qu'elle est devenue ensuite.
Donc, est-il probable que Napoléon III ait vu, lui, très bien, il connaissait les origines de Delacroix, ait voulu conserver l'idée néo-bonapartiste du tableau ou...
Ça, il n'en dit rien.
Pour être honnête, il n'en dit rien.
Et j'ai travaillé récemment sur cette exposition de 1855 et j'ai pas trouvé de mention. En revanche, il soutient plutôt Delacroix parce que c'est par autorisation expresse de l'empereur que le tableau est montré. Et c'est aussi grâce à l'intervention de l'empereur que d'autres tableaux sont montrés. Donc, il y est en tous les cas favorable d'une certaine manière. Mais pas au point complètement que le tableau revienne. Voilà, je pense que ça doit quand même continuer à heurter un certain nombre de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tableau aujourd'hui, qui est certainement le plus célèbre de Delacroix, largement, n'est pas celui qui a été le plus montré du vivant de Delacroix. C'est-à-dire que la grande célébrité du tableau vient de sa présentation pendant la Troisième République. Les tableaux de Delacroix qui étaient au Luxembourg et la liberté comprise donc arrivent au Louvre au tout début des années 1870. Et donc à ce moment-là, avec aussi par exemple les femmes d'Alger, la barque de Dante, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et à ce moment-là, pour la République qui se cherche des icônes, c'est pain béni, si je peux dire ainsi. Enfin, pour une République, pain béni, c'est peut-être pas la bonne expression, mais en tous les cas, c'est vraiment une opportunité remarquable. Et c'est d'autant plus fort que, au même moment, est présentée au Louvre une autre allégorie grecque, qui est la victoire de Samothrace. Et moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit à mes collègues antiquisants au Louvre, que je pense que la fortune de l'une et l'autre œuvre s'est accompagnée. C'est-à-dire, finalement, il y avait, d'un certain côté, deux victoires de liberté.
Ça fait sens.
Ça fait sens.
Ça fait sens.
Et c'est là où, vraiment, à ce moment-là, l'œuvre arrive et est présente dans les manuels, et puis devient, effectivement, comme vous l'avez dit, une œuvre qui symbolise, plus que la liberté, la République.
La République, oui,
et
ça.
Avec énormément de confusion, puisque je pense que pas 100% évidemment, mais bien 9 personnes sur 10, enfin au moins, peut-être un peu plus que ça, 9, quand on leur demande, pensent que ça illustre la révolution de 89, hein, la quasi-totalité. Et beaucoup aussi, peut-être, ne s'arrêtent pas suffisamment pour voir cette complexité allégorique, en fait.
Alors, une des dernières choses dont nous allons parler et qui me paraît assez frappante, c'est que c'est un tableau comme pourrait dire Rousseau, sans exemple et sans imitateur, à part lui-même. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait d'exemple aussi frappant pour la Révolution de 48, même si elle a perdu en quelque sorte. Il n'y en a pas pour la Commune, il n'y en a pas pour la Libération de Paris en 44, il n'y en a pas eu, il y aurait pu en avoir en mai 68, je ne sais pas quoi, une jolie fille avec un drapeau, mettons rouge.
Il y a la fleur quand même, vous savez, la belle photographie avec la jeune fille à la fleur et tout ça.
Pareil. Donc, au fond, c'est aussi un cas unique de représentation pour un événement révolutionnaire. Je n'en vois pas d'équivalent, mais ça ne vient pas du fait. Est-ce que ça ne vient pas du fait que précisément c'est d'une initiative personnelle du peintre et que voilà, et que les révolutions sont tellement agitées qu'elles ne pensent pas à commander pour elles-mêmes des choses glorieuses?
C'est sans doute vrai, et puis c'est aussi parce qu'elle s'inscrit à la fois dans un présent immédiat et dans un très long passé. C'est-à-dire que je pense que le grand génie de Delacroix par rapport à cette œuvre-là, c'est cette référence à l'allégorie antique qui, pour lui, est importante d'un point de vue iconographique, on en a parlé, mais qui est aussi importante du point de vue de l'histoire et d'une forme d'allégorie du bon gouvernement. C'est-à-dire que l'antique, quand même, pour lui, c'est revenir, c'est le siècle de Périclès, c'est celui d'Adrien, ou c'est celui de la République, ou c'est ceux de la République romaine. Donc, c'est quand même cette idée-là. Et je pense, du coup, que elle a pris quelque chose de cet idéal-là. Et que, du coup, c'est la raison pour laquelle elle peut aujourd'hui symboliser toutes les révolutions, quelles qu'elles soient, ou toutes les libertés qui veulent être acquises, quelles qu'elles soient, puisque elle ne puise. Et ça, c'est le grand génie de Delacroix. Le titre, vous le disiez tout à l'heure, c'est le 28 juillet 1830 à Paris. Donc, on pourrait se dire, c'est une journée dans une ville X précise sur la carte du globe. Et en même temps, parce qu'elle s'inscrit très profondément dans cette allégorie à la fois politique et iconographique, c'est n'importe où.
Dominique de Fonréau, que vous a appris le personnage de la liberté guidant le peuple ?
Ah, j'aurais envie de dire que la liberté est toujours féminine, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire que ça s'inscrit aussi dans un... Peut-être que, même si c'est une allégorie, avec toutes les conventions que les allégories ont, je pense que ça montre aussi une espèce de puissance, de force qui va, de force tranquille, qui me semble une des incarnations de la féminité, si je peux dire ainsi.
C'était Personnage en personne, le 43e et dernier de l'année. Je remercie tout particulièrement Clotilde Pivin qui réalise en personne et avec brio cette émission, et Daphné Abgral qui m'aide comme personne à en préparer la documentation. La saison prochaine reprendra le 2 septembre, toujours le dimanche et toujours à 15h.
Là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral. Prise de son Renaud Fluzin.
Le paradis acquis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec
C'était
Joël Gaillot.
Un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers.